France Inter.
Bonjour, c'est Micheline de Paris. Je suis membre de l'association collective Vietnam Dioxin. Le 7 mai prochain aura lieu le procès de Tran Tonya, qui a 82 ans, est une franco-vietnamienne ancienne résistante qui porte plainte contre 14 multinationales de l'agrochimie, dont Monsanto Bayer, pour avoir fabriqué et commercialisé l'agent orange qui a été déversé sur les forêts sud-vietnamiennes pendant la guerre du Vietnam dans les années 70. Donc le procès aura lieu le 7 mai, on aura un rassemblement de soutien le 4 mai. Merci.
Elisa, bonjour de la Meuse. Vers 1920, à Museret, près de Verdun, une usine de désobuage faisait exploser 1,5 million d'obus chimiques polluant les sols à l'arsenic dioxine. L'histoire de cette usine fut retrouvée en 2015, obligeant à détruire 100 hectares de récolte, euthanasier vaches et veaux, envoyer le lait à la méthanisation. Voir le documentaire « Un héritage empoisonné » d'Isabelle Masson-Lotz. Bravo pour vos émissions, merci.
Oui, bonjour, c'est Alain de Vif en Isère. Bon, France Inter, ce serait bien que vous arrêtiez cette publicité sur la consommation de viande bovine. C'est agressif et c'est pénible et c'est vraiment à contre-courant. Tout le monde sait actuellement qu'il faut manger moins de viande. Donc merci, au revoir, à bientôt.
Aline à Trévenoc, petit village de 800 habitants en Côte d'Armor. Le châtelain du village envisage de louer à Pierre et Vacances des terres agricoles, zones naturelles, dont une zone humide, pour un projet de 100 bungalows, une piscine, un restaurant, une boutique, le long d'un petit bois et d'une petite route bordée de chênes dans le bourg même de Trévenoc. Stop au bétonnage. Trévenoc possède déjà un centre de vacances et plusieurs lotissements. Les habitants et les amoureux de Trévenoc demandent une marche arrière sur ce projet. Merci.
Et merci à toutes et tous. Reprenez en tout cas les bonnes habitudes après les vacances. Pensez à nous laisser vos messages sur ce répondeur 01 56 40 45 45. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler 24 heures sur 24. Ce sont des géants de glace détachés des calottes glaciaires et des glaciers flottants qui dérivent au cœur des paysages polaires et des océans au gré des courants marins et des vents, avec des tailles pouvant varier considérablement allant de quelques mètres à plusieurs kilomètres de longueur, des formes présentes qui présentent également une grande diversité allant d'immenses tables flottantes à des dômes, des colonnes et des pics. Les icebergs, puisque c'est eux dont il s'agit, jouent un rôle important dans l'équilibre écologique des régions polaires et des océans. Mais à l'heure du réchauffement climatique, leur fonte rapide peut avoir des conséquences graves sur l'élévation du niveau de la mer et sur la perturbation des écosystèmes marins. Nos invités étudient ces géants glacés pour comprendre les changements climatiques en cours et leurs impacts sur notre planète. C'est l'objet de ce dossier cet après-midi de la Terre au Carré. Et pour en parler, nous sommes en duplex des studios de France Bleu Isère à Grenoble avec la glaciologue et climatologue Catherine Ritz et l'océanographe Nicolas Jourdain. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Mathieu. Bonjour.
Vous travaillez tous les deux à l'Institut des géosciences et de l'environnement de l'Université Grenoble-Rhône-Alpes. Catherine Ritz, vous êtes professeure émérite, directrice de recherche au CNRS et vous avez été également présidente du comité scientifique pour la recherche en Antarctique. Nicolas Jourdain, vous êtes quant à vous chargé de recherche au CNRS. Vous avez participé, on le verra, à plusieurs études sur le lien entre la fonte des glaces, le niveau des mers et le climat. Et puis avec nous en studio, Barthélémy Antoine Louf. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes plasticien, artiste et éleveur d'icebergs, surtout, c'est ça qui nous intéresse, puisque votre prochaine exposition sera présentée à Genève à partir du 16 mai prochain, mais vous proposez aussi à des particuliers d'accueillir un iceberg chez soi. On va en parler tout à l'heure, vous nous donnerez tous les détails. Cap donc sur les icebergs, on attend toutes vos questions dès maintenant sur la page de la Terre au Carré et sur nos réseaux sociaux. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour, je ne suis pas sûre d'avoir un salon assez grand pour un iceberg.
Non mais vous verrez, celui-là il est petit, donc c'est très pratique.
Alors moi je reste sur la glace, mais en Antarctique où les météorites sont en train de disparaître, le réchauffement accélère le fait qu'ils s'enfoncent et se font en quelque sorte manger par la glace. Et c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est en Antarctique qu'on collecte la majorité des météorites sur Terre.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaray, préparée par Emma Bouvier avec Adèle Caglar. Aujourd'hui à la technique.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Ce que vous voyez là, ce sont des icebergs qui ont pris naissance près du continent par l'écroulement du front du glacier de l'Astrolabe. Il ne reste de ce glacier presque rien, un trognon. Et ces glaces que nous voyons autour de nous, ce sont des morceaux de ce glacier qui se sont détachés et qui commencent à dériver vers le nord. Ce sont des icebergs typiques de l'Antarctique, on appelle ça des tabulaires, dont la hauteur peut atteindre 50-60 mètres et dont le pied, quelquefois, est à 350-400 mètres. Il y a des icebergs qui ont des pieds.
Voilà une archive de l'INA de 1976 avec l'explorateur Paul-Émile Victor à bord du navire polaire danois Taladan, des icebergs donc dans l'émission cet après-midi avec nos invités Catherine Ritz, Nicolas Jourdain et Barthélémy Antoine Louf. Catherine Ritz, les icebergs ont des pieds, c'est un terme scientifique ça ou pas?
Pas vraiment, mais c'est vrai qu'en général, il n'y a qu'un dixième qui est au-dessus de la surface de la mer et que tout le reste est dessous.
Oui, d'où cette image de Paul-Émile Victor. Nicolas Jourdain, si je vous dis qu'un iceberg, c'est un gros glaçon d'eau douce qui flotte dans l'océan, est-ce que ça commence bien pour essayer d'en donner une bonne définition ou pas?
Oui, c'est tout à fait exact. Les calottes polaires sont l'accumulation très longue de précipitations, de neige. Et cette neige, un peu comme si on renversait un pot de miel sur une table, va s'écouler très doucement vers l'océan. Et puis comme en Antarctique, on est dans un environnement très froid, parfois le glacier va continuer à flotter sur l'océan sans vraiment fondre de façon importante. Et au bout d'un moment, ça va casser et former des icebergs qui sont donc de l'eau douce.
Pourquoi vous précisez l'Antarctique? Parce qu'a priori, il y en a sur les deux pôles, non?
Oui, je prenais l'exemple de l'Antarctique parce que c'est une déformation professionnelle, c'est là-dessus que je travaille. Mais effectivement, on a exactement la même chose au Groenland et puis aussi dans l'Arctique de façon générale, avec tous les petits glaciers qui terminent dans l'océan Arctique. Ouais.
Catherine Ritz, l'Antarctique, c'est aussi une des régions du monde que vous avez beaucoup étudiée?
Oui, tout à fait. Et je pense que Nicolas et moi, on a vu effectivement les icebergs de l'Astrolabe.
C'est vrai? Les mêmes?
Oui, il y a une année, on était ensemble.
Et donc, ce sont des icebergs qui peuvent vivre combien de temps? Alors, parce que là, entre l'archive de 1976 et plus récemment, en tout cas, on peut vraiment observer ces géants de glace à plusieurs décennies d'écart.
Tout à fait. En fait, ils partent pas vraiment vers le nord. Ils se mettent à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de l'Antarctique.
Ouais.
Et ce trajet, quand on voit l'Astrolabe, c'est exactement à l'opposé de la péninsule Antarctique, mais ils passent tous vers la péninsule Antarctique.
Mmh.
Et du coup, ça met des décennies.
Ouais, l'âge moyen d'un iceberg, Nicolas Jourdain, la durée, l'espérance de vie d'un iceberg, il y a une moyenne ou pas du tout?
Non, pas du tout, puisqu'on a des icebergs très petits. Quand on a un gros tabulaire qui se forme, à côté on a plein de tout petits icebergs.
Mmh.
Et ces petits icebergs peuvent fondre très vite, en quelques jours. Et à l'inverse, les gros icebergs, comme le disait Catherine, peuvent tourner très longtemps autour de l'Antarctique. Ils peuvent également s'échouer sur des hauts fonds.
Mmh.
Et donc ils vont rester quasiment immobiles au milieu de l'océan pendant effectivement des décennies.
Et alors, quand on parlait justement tout à l'heure de la partie émergée de l'iceberg, on évoquait donc les pieds, la partie immergée, c'est vraiment cette image-là? C'est-à-dire quand on voit un iceberg, c'est une toute petite partie seulement de l'ensemble? Catherine Ritz?
Oui, c'est forcément ça, c'est Archimède, ouais. C'est vraiment de la physique pure et dure.
Ouais. Donc on a des grosses masses quoi, en réalité, hein.
C'est une quantité importante de glace, oui, effectivement. C'est un tabulaire qui fait 10 km de long et c'est assez classique.
Oui.
Ça correspond à... Oui, ça peut faire 10 km cubes facile.
En tout cas, 10 km, Nicolas Jourdain, c'est presque un petit modèle hein, par rapport à ce qu'on peut voir aussi dans les régions antarctiques.
Ouais, on a parfois les plus gros icebergs peuvent exceptionnellement faire la taille des îles comme la Réunion ou la Martinique.
Ouais.
Et alors généralement ça c'est au moment où ils se forment et puis ensuite quand ils dérivent dans l'océan Austral, ils finissent par se casser en plus petits morceaux quand même.
Barthélémy Antoine Louf, vous vous présentez, je le disais, comme éleveur d'iceberg. Est-ce que vraiment vous pourriez apporter un iceberg dans le salon de Camille ou pas alors...
C'est un peu l'idée, oui, effectivement, du projet. En tout cas, c'est un personnage que je me suis créé il y a 4 ans, au moment de la pandémie. J'ai décidé de devenir éleveur d'iceberg pour proposer à des personnes d'accueillir chez eux ou chez elles une de mes œuvres qui représente alors un petit iceberg sous une cloche en verre.
Alors voilà, donc c'est vraiment petit modèle. Hein.
C'est pas de la vraie glace alors, parce que il y a des gens qui pourraient dire que ça n'a aucun intérêt.
Alors si, c'est de la vraie glace. Et c'est tout l'intérêt.
Ah, c'est de la vraie glace.
Tout à fait. Tout à fait.
Alors pourquoi ça a un intérêt d'avoir un iceberg dans son salon à Paris en l'occurrence ?
Alors il y a plein de choses autour de ce projet-là. Déjà, il y a cette idée que on habite finalement très très loin des pôles. Donc les icebergs ne sont pas des habitants, j'ai envie de dire, qui gravitent autour de nous.
Ouais.
Donc il y a cette idée de parler finalement d'un enjeu aujourd'hui qui est la disparition tout simplement de la cryosphère, donc de l'ensemble des glaces du globe. Et j'ai choisi la figure de l'iceberg parce qu'il y a, quelque chose de très poétique par rapport à ça. Et puis, il y a l'idée aussi de parler, à ce moment-là, au moment où j'ai créé ce projet-là, de ma condition d'artiste, qui était que je ne pouvais plus exposer dans des lieux artistiques. Et donc, je suis allé à la rencontre de personnes pour pouvoir leur proposer d'héberger chez eux une œuvre d'art. Et cette œuvre d'art, elle a la particularité d'être vivante, puisque on parle d'un morceau de glace. Tout à l'heure, je vous entendais, Mathieu, parler des icebergs en employant à peu près tout le lexique de la vie. Les glaciologues également utilisent le lexique de la vie, puisqu'ils utilisent le vélage pour parler de la naissance d'un iceberg. On parle de la naissance et de la mort d'un iceberg. Donc il y a aussi cette idée aussi de réintégrer à l'intérieur de notre cercle quelque chose de vivant. Et, ouais. D'accueillir en fait finalement un iceberg comme étant quelque chose de vivant.
Mais alors on parlait justement de la partie émergée et immergée. Donc votre iceberg à vous, il y a vraiment ça ? Ça respecte cette loi aussi ou pas ?
Alors non, c'est là où je m'autorise à être artiste et c'est là où je m'autorise un tout petit peu à tordre le cou à la condition de l'iceberg. J'ai choisi la figure de l'iceberg pour des raisons de lexique et de raconter une histoire. En fait finalement c'est peut-être plus un glacier que l'on reçoit chez soi et qui a la particularité d'être sous perfusion.
Mais alors comment il reste froid ? Ça demande beaucoup. Pardon, je vous embête un peu, mais ça demande beaucoup d'énergie. C'est comme un mini frigo dans son salon.
Bah ou... C'est la perfusion justement. C'est l'idée de le maintenir en vie en fait.
C'est l'idée de le maintenir en vie. Alors il y a dans cette œuvre là un espèce de paradoxe effectivement, puisque pour avoir quelque chose de froid, il faut dépenser de l'énergie. L'énergie que je dépense, elle est comptée. Quand j'ai commencé à travailler sur cette œuvre là, je me suis fixé une limite à ne pas dépasser, qui est une limite que j'ai choisie de manière aléatoire, qui correspondait au nombre de watts, finalement, de mon chargeur d'ordinateur, c'est-à-dire 60 watts. Et je me suis dit que si je dépassais la quantité d'énergie brûlée par ce chargeur-là, je ne faisais pas cette œuvre-là. Donc, effectivement, il y a un tout petit dispositif qui n'est pas vraiment un dispositif frigorifique au sens classique du terme, qui permet de garder la glace à l'état gelé à l'intérieur de sa cloche en verre.
Et vous la portez à vélo, en plus, hein, parce que vous ne voulez pas vous déplacer autrement. Et donc, c'est plutôt pour les gens de la région parisienne, hein, en l'occurrence, mais...
Alors oui, je la porte à vélo. L'idée, c'était de travailler sur le territoire, un territoire qui est assez restreint, donc une exposition très localisée. Et je l'emmène effectivement de maison en maison, d'école en école aussi. Et on est en train d'ouvrir le projet à d'autres infrastructures
ouais.
avec le mécénat avec lequel je travaille, qui est le Maïf Social Club. Mais toujours en région parisienne et sur Paris, et à vélo, parce que ça fait sens par rapport au projet.
Catherine Ried, c'est Nicolas Jourdain. Vous, en tant que scientifique pur jus, là, pour le coup, qu'est-ce que vous pensez de la démarche de l'artiste Barthélémy Antoine Louf, qui défend la cryosphère quand même, hein. Il fait un bon boulot de vulgarisation, en tout cas.
Alors nous, on essaye de faire des modèles réduits de temps en temps pour montrer comment la glace s'écoule et des choses comme ça.
Ouais.
C'est vrai qu'on a... On n'a jamais spécialement fait d'iceberg, parce qu'en fait, un iceberg, c'est un peu un glaçon qu'on met dans l'eau, simplement. Il aura la bonne répartition au-dessus de la...
Oui.
au-dessus de la... du niveau de l'eau. Mais j'aimerais bien voir.
Et on peut le voir sur son compte Instagram, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Hein.
On peut le voir sur mon compte Instagram, on peut le voir sur mon site internet également. Ouais.
Nicolas Jourdain, parce qu'on parlait du vélage tout à l'heure, vous aussi, une étape qui vous intéresse beaucoup aussi autour des icebergs.
Oui, tout à fait. Ce qui nous intéresse, c'est la masse de la calotte antarctique, puisque c'est ça qui va contribuer au niveau des mers, et puis c'est ça qui va aussi changer la quantité d'eau douce qui part dans l'océan, et ça a des effets importants pour le climat. Et tout ça, c'est effectivement contrôlé par à la fois la fonte sous les parties flottantes de la calotte et puis par le vélage des icebergs au front des plateformes.
Pourquoi on emploie ce terme d'ailleurs auquel on pense plus quand on parle d'une vache, par exemple, qui monte son veau ? Pourquoi on en parle aussi pour un iceberg, Nicolas Jourdain ?
Alors, je suis pas trop sûr, mais de ce que j'ai lu, ça semble venir de l'anglo-saxon où calf c'est aussi utilisé pour d'autres mammifères et notamment pour les baleines.
Mm-hmm.
Et donc, en anglais, on parlerait de vélage pour les baleines. Et en fait, l'Antarctique était surtout, au début du siècle dernier, exploré par les baleiniers. Mmh. Et donc, c'est possible. Alors, ça vient peut-être aussi de l'hémisphère nord. Ça a été utilisé dès le 19e siècle dans l'hémisphère nord. C'est possible que ça vienne de là.
Allez, on revient vers vous dans un instant. Vous qui êtes Catherine Ritz et Nicolas Jourdain en duplex de Grenoble avec Barthélémy Antoine Louffet également avec nous en studio pour parler iceberg cet après-midi.
Je
c'était Laurent Barden sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Il faudra au moins 5 jours à la Calypso pour atteindre le port argentin d'Ushuaïa afin d'y être réparé. L'accident, en fait, s'est produit il y a 4 jours au large de la péninsule antarctique. La Calypso, sous l'effet d'un vent de près de 150 km/h, a été littéralement drossée sur un iceberg. La collision a brisé une des deux hélices et a fait une brèche dans la coque à 60 cm au-dessus de la ligne de flottaison. Par chance, aucune victime parmi les 30 personnes qui étaient à bord.
Voilà, il a eu chaud le commandant Cousteau en 1973, comme on l'entendait dans cette archive de l'INA des chercheurs d'iceberg cet après-midi avec nous. La glaciologue Catherine Ritz, l'océanographe Barthélémy, Antoine...
Nicolas Jourdain.
Nicolas Jourdain, merci. Et l'artiste donc Barthélémy Antoine Louff, artiste plasticien. Catherine Ritz, régulièrement les icebergs géants font parler d'eux dans les médias, avec vraiment des masses énormes qui sont parfois, vous le disiez, de la taille du Nil, ou voire 3 ou 4 fois des grandes mégalopoles. Est-ce que c'est quelque chose de normal d'observer ces masses aussi importantes se déplacer ?
Alors en fait, En fait, ces gros, gros icebergs qui proviennent des immenses plateformes flottantes autour de l'Antarctique, qui sont dans les grandes baies de l'Antarctique, c'est plutôt un comportement normal. C'est juste que ça se passe pas tous les ans, ça se passe tous les 50 ans. Mmh. Et du coup, la glace, avant de se casser en iceberg, on voit des crevasses en amont et on sait à quel endroit ils vont casser en fait. Mais ça met longtemps, c'est juste un phénomène qui se passe pas très souvent. Et ces gros icebergs, c'est plutôt normal. C'est impressionnant parce qu'ils sont immenses. C'est impressionnant parce que du coup, ils restent souvent entiers pendant un bon moment. Et en général, ceux qui viennent de la plateforme de Ron Filchner vont vers la Géorgie du Sud et parce que c'est la route des icebergs.
Ouais.
Et là, ça peut poser des problèmes sur la biologie en Géorgie du Sud quand ils vont arriver à racler le fond de la mer.
Mmh.
Mais ceux-là sont normales. En fait, c'est ce qu'on craint le plus, c'est ceux des plateformes qui peuvent... Il y a des plateformes dans le passé, on l'a observé, qui explosent littéralement. En quelques semaines, la plateforme flottante se casse en petits icebergs.
Oui.
Et là, ça a une action sur la glace qui est en amont, qui va s'écouler plus vite, parce que c'est comme si on retirait le bouchon dans une baignoire.
Mmh.
Et ça a un impact sur la quantité de glace qui va à la mer et le niveau des mers.
Donc il y a un écoulement en fait tout d'un coup là qui pose un problème.
C'est une fracture en fait. Ouais. Il y en a un qui s'appelle le Larsen B. Ça s'est fait en 15 jours, quelque chose comme ça. C'est vraiment très très impressionnant. Alors dans le cas de cet ice shelf là, on soupçonne que c'est à la fois un effet de l'océan qui chauffait par en dessous et de l'atmosphère qui faisait fondre la glace en surface, l'eau pénétrait dans les crevasses et ça facilitait la fracture, mmh. Mais ça s'est fait en très peu de temps.
Ouais.
Une question de Florent sur franceinter.fr. Existe-t-il un lien entre les icebergs et la banquise et dans quel ordre les premiers, donc les icebergs, peuvent-ils aider la seconde, la banquise, à se créer, s'étendre ou se maintenir? Tout à l'heure, Nicolas Jourdain, vous parliez du fait que parfois ils pouvaient se mettre dans des hauts fonds. Est-ce que ça pourrait retenir aussi la banquise ou lui permettre de s'étendre effectivement?
Oui, tout à fait. C'est des choses qu'on observe en Antarctique. À certains endroits, on a des hauts fonds, donc il faut voir ça comme un peu une chaîne de montagnes. Et puis tous les icebergs viennent s'échouer dessus, et donc ça crée comme un mur d'icebergs dans l'océan. Et ce mur va venir bloquer la glace de mer qui dérive constamment. Donc la glace de mer, je rappelle que c'est la glace qui se forme par congélation de l'océan tous les ans pendant l'hiver. Et donc cette glace va être bloquée par ces murs d'icebergs, et donc on va avoir d'un côté énormément de glace de mer, et d'un autre côté plus du tout de glace de mer, et ça va avoir aussi des conséquences importantes pour l'océanographie.
Catherine Ritz, on parlait tout à l'heure d'être vivant finalement, en évoquant les icebergs. Est-ce que l'image là aussi est exacte? Est-ce qu'on peut considérer ça comme un écosystème à part entière, un iceberg?
En tout cas, ça peut se transformer en bête sauvage, parce que de temps en temps, il se retourne.
Ouais. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a alors? Qu'est-ce qu'on peut...
À l'intérieur, c'est de la glace, de glacier. Mm-hmm. Donc en fait, c'est de la neige qui s'est accumulée, qui s'est densifiée. Donc on voit des strates. Quand on voit la tranche d'un iceberg, on voit très bien des strates. Éventuellement, quand ils se retournent, du coup, on voit que les strates sont pas horizontales et on voit éventuellement soit des algues qui se sont mises sur le fond, soit des sédiments.
Oui, donc on peut en trouver aussi. Donc ça, c'est aussi des traces vivantes qui sont imprimées, on pourrait dire, presque dans l'iceberg.
Tout à fait.
Barthélémy Antoine Louf, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir éleveur d'iceberg? Alors au départ, c'était quoi l'histoire?
Il y a plusieurs choses. Je crois qu'il y a un attachement profond au monde polaire. J'adore ces paysages froids et qui sont finalement pleins de vie, alors que théoriquement ils sont pas aptes à héberger la vie. J'aime aussi la lumière qu'on trouve dans ces paysages-là. Et puis il y a eu un événement qui était un peu plus particulier, qui était un iceberg qui s'est détaché de la barrière de Larsen, la barrière de Larsen C, qui était un gigantesque iceberg tabulaire, si je ne dis pas de bêtises. Et à ce moment-là, j'étais en train de préparer une exposition. Je cherchais un peu le titre de mon exposition. Je surveillais les relevés relevés satellites par rapport à cet iceberg qui était en train de se détacher, mais on ne savait pas très bien quand. L'iceberg est gigantesque puisqu'il fait 5200 km², je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et au moment où je décide que finalement, ça ne sera pas à l'Arsène, le nom de cette exposition-là, le morceau de glace se détache.
Ouais.
Et donc j'en fais une œuvre qui va être finalement presque la première œuvre que je vais faire autour de la question des icebergs.
C'est quoi, c'est 2017 à peu près ?
C'est 2017, ouais.
Ouais, où il y a ce phénomène qui vraiment vous marque au point ouais. D'engager finalement une démarche artistique à la
tout
suite
à
de
fait.
Cela. Hein.
Tout à fait. Ouais.
Et alors, Nicolas Jourdain, ce type d'iceberg, par exemple, on les suit, pardon, est-ce qu'on sait ce qu'il est devenu ? Je crois qu'il a un nom d'ailleurs, hein, au-delà de son nom scientifique.
The White Wanderer.
Oui, je crois que c'est ça. Hein. Est-ce que ce sont des masses de glace qui sont scrutées, suivies quasiment quotidiennement ou pas ?
Oui, tout à fait. Donc les icebergs ont des noms. Alors souvent, c'est des noms plutôt avec des numéros B22, A68, ouais. Ce genre de choses. Et parfois, ont des noms un peu plus poétiques.
Ouais.
Mais donc, ces très grands icebergs tabulaires sont suivis hein, par un organisme aux États-Unis. Et puis sinon, l'ensemble des icebergs, y compris les petits, sont suivis par satellite. On arrive à les voir très bien par satellite. Et ils sont suivis, et maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, on a vraiment des données qu'on peut utiliser pour faire de la science, qui permettent d'avoir chaque année la densité d'icebergs dans l'océan Australien.
C'est-à-dire qu'on est capable presque de faire un inventaire des icebergs qui se baladent ou pas ?
Tout à fait.
Ouais. Donc on sait exactement combien il y en a ?
Alors on ne sait pas combien il y en a, parce que des tout petits icebergs, il y en a quasiment une infinité, il y en a vraiment énormément.
Ouais.
Mais disons qu'à partir d'une certaine taille, on est capable de mesurer le nombre, effectivement. Ouais.
Catherine Ritz, est-ce qu'il y a une diversité d'icebergs ? Est-ce qu'on parlait de ces tabulaires, là, par exemple, qui sont très marquants en Antarctique, mais est-ce qu'il y a beaucoup de formes, de tailles différentes ? Est-ce qu'ils sont classifiés ou pas ?
Alors... il y a les tabulaires et les autres. C'est vrai que, en fait, le bord de la plateforme flottante, c'est comme une falaise qui se casse. Alors, quelquefois, c'est la falaise qui se casse en gros blocs. Mmh. Et puis, quelquefois, c'est un bout entier de la nappe qui se décroche. Et en fait, c'est la différence entre les deux grands types d'icebergs, en sachant que les tabulaires peuvent être vraiment... gigantesque.
Oui.
Dans les formes, pardon, je précise, il y a quelques mois, un iceberg avec une forme phallique qui avait fait la une des journaux au large des États-Unis, je crois, ou du Canada.
Donc, grande diversité.
Il y avait
diversité.
Des photos partout sur Internet.
Des formes et des couleurs aussi. On en reparlera avec vous dans un instant. Et puis, les effets, évidemment, du réchauffement climatique sur ces icebergs avec le niveau de la mer et la montée du niveau de la mer. On en parle juste après avec les questions qui arrivent pour vous.
France Inter. La Terre au carré.
14h31, on passe au vert, Camille Cronier.
Avec une conséquence du réchauffement climatique à laquelle, de l'avis même des scientifiques, on n'avait jamais pensé auparavant. La disparition des météorites en Antarctique. Et c'est un gros problème parce que, comme le rappelle Harry Zekolari, professeur en glaciologie à l'Université néerlandophone de Bruxelles et co-auteur de l'étude en question, publiée il y a quelques jours dans Nature, l'Antarctique est un peu le coffre-fort des météorites sur Terre.
De toutes les météorites qu'on a trouvées sur Terre, il y a environ 60% qui ont été trouvées en Antarctique. Donc c'est vraiment l'endroit numéro un. On a créé une carte trésor et on voit vraiment c'est l'endroit où il faut aller pour aller vraiment à la recherche de ces roches qui ont tellement d'informations précieuses sur notre espace.
Pourquoi ? Alors d'abord parce que le froid, ça conserve quand même vachement bien. Deuxièmement, parce que le blanc ou le bleu, ça permet vachement bien aussi de voir à l'œil nu les météorites noires qui ont atterri. Et trois, parce que l'écoulement de la glace en Antarctique se fait de telle façon qu'elles peuvent s'agglomérer par endroits, les météorites, remonter même vers la surface, certaines étant passées dans l'atmosphère il y a des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. Voilà, en résumé, les météorites et l'Antarctique, c'est super pratique. Mais donc, le réchauffement climatique, vous avez remarqué mes petites rimes, est en train là aussi de faire des dégâts, et le chercheur vous explique comment et pourquoi.
Même si la glace est vraiment très, très, très froide, ça peut être de la glace qui est par exemple à moins 10 degrés, comme la météorite est noire, elle va absorber beaucoup d'énergie solaire, elle va commencer à se réchauffer, et puis elle peut donner une partie de son énergie à la glace, et cette glace va commencer à se réchauffer. Et à un certain moment, quand elle va atteindre 0 degré, à cause du fait que la météorite est là, elle va commencer à fondre la glace et la météorite, en fait, va commencer à partir de la surface. Elle va rentrer dans la calotte et dès qu'elle est en dessous de la surface, on ne peut plus la retrouver. Et donc, c'est un phénomène qui peut se produire de façon naturelle. Mais ce qu'on voit maintenant avec le réchauffement climatique, il y a des zones de glace qui, par exemple, à l'époque, étaient à moins 11, moins 12 degrés, qui étaient assez pour protéger les météorites, donc pour pas s'enfoncer dedans. Et on voit que ces zones, maintenant, avec quelques degrés de réchauffement, vont passer à moins 9, moins 8, moins 7, ce qui est encore toujours très froid. Mais avec l'énergie que la météorite localement peut prendre, ça va faire que c'est, en fait, elle a une température trop élevée et la météorite, donc, risque vraiment de, ouais, on risque de la perdre et qu'elle va vraiment fondre dans la glace.
Autrement dit, le réchauffement climatique accélère ce phénomène de fonte et donc de disparition sous la glace des météorites dans des proportions énormes.
En moyenne, on trouve 1000 météorites par an et là, on estime qu'en ce moment, on en perd 5000 par an.
Alors là, c'est Véronica Tolénard, co-autrice de l'étude également. Elle est glaciologue à l'Université libre de Bruxelles. 5 fois plus de pertes que de trouvailles. Elle m'a précisé que aussi, d'ici 2050, on aura perdu 25% des météorites en Antarctique et que dans le meilleur des scénarios, ça stabilisera ensuite, mais que dans le pire des scénarios, ça va s'empirer. Donc un quart en moins si on tient l'accord de Paris, donc plus 1,5 ou 2 degrés max de réchauffement climatique d'ici la fin du siècle, et jusqu'à 75%, les trois quarts des météorites de l'Antarctique, si on arrive par exemple au pire à 5 degrés de réchauffement climatique. Dans tous les cas,
notre étude démontre qu'on perd une archive unique sur notre système solaire et donc on doit vraiment se dépêcher, on doit avoir des actions coordonnées, plusieurs pays ensemble qui doivent essayer d'aller collecter ces météorites avant qu'elles disparaissent.
Bon, j'ai quand même demandé s'il n'y avait pas moyen de les repérer sous la glace malgré tout, avec des radars ou, je ne sais pas, des bip-bip comme les gens à la plage.
Il y a une mission britannique qui a essayé de faire ça avec un détecteur de métal, en effet, comme les gens qui se promènent à la plage avec les bip-bip pour trouver, par exemple, des pièces, parce que beaucoup de météorites contiennent du fer. Et pour l'instant, les premières missions n'ont quand même pas été un succès de ce point de vue-là. L'espace qu'on peut couvrir est quand même beaucoup plus grand de façon visuelle qu'en passant avec un détecteur de méthane.
Ah là là, dommage, j'étais à ça de leur trouver la solution. Non, ce qu'ils recommandent donc, c'est comme Harry Zecolari le disait, une grande mission internationale de collecte sur place, dans les zones les plus touchées, c'est-à-dire en basse altitude, entre 1500 et 2000 mètres, et j'ai bien dit basse altitude, hein, 2000 mètres en Antarctique, c'est de la basse altitude, et à celles et ceux qui se diraient que c'est trop de moyens, les glaciologues ont une réponse. Si on regarde les missions pour récolter un peu de poussière d'astéroïdes ou de Mars ou de la Lune, on comprend la quantité d'argent investi pour avoir ces échantillons. Alors que s'ils sont livrés gratuitement à la Terre, c'est un bon deal. Allons donc sauver les météorites et vite.
Voilà, après un éleveur d'iceberg, peut-être un sauveur de météorites. Hein, on a peut-être du boulot pour vous, Barthélémy Antoine Louf. Merci beaucoup. Camille Cronier.
Catherine Ritz, la chercheuse Véronica Tolénard me disait qu'il y avait aussi de fait des météorites forcément dans les icebergs. Est-ce que vous en avez déjà vu ou pas ?
Alors non, j'en ai jamais vu, mais il y en a dans toute la calotte glaciaire. En fait, ça tombe pas particulièrement en Antarctique. C'est juste que en Antarctique,
ils sont faciles à voir.
Ils sont faciles à voir, et puis que quand on voit un caillou à la surface de la neige, on est quand même à peu près sûr que ça vient pas d'une montagne parce qu'elles sont très très loin.
Barthélémy Antoine Louf, ça vous plairait, vous, d'avoir une action pour les météorites ?
Ah, totalement.
C'est vrai ?
Ah oui.
Déjà, ça suscite chez vous un peu d'imaginaire, c'est ça ?
Ça suscite déjà un peu d'imaginaire, et puis j'ai même une installation qui s'appelle Nos Météores, qui parle des effets dévastateurs d'une planète qui n'aurait plus d'eau. Et donc, en fait, on se dirige tout doucement vers une planète qui se dessèche et qui est à l'image de Mars. Nos météores, c'est cette question de quelque chose qui est au-dessus de nous et qui pend au-dessus de notre tête, en fait.
Nicolas Jourdain, on parlait du fer des météorites. Du fer, il y en a aussi dans les icebergs, je crois.
Oui, tout à fait. Parfois, les icebergs qui basculent à force de fondre, parfois leur centre de gravité change un petit peu, ils basculent et donc on voit apparaître ce qui était avant en dessous. Et on voit parfois des franges ou des parties entières noires ou vertes. Et ces éléments-là sont en bonne partie liés à la présence de fer. Le fer vient du socle rocheux au fond de l'océan ou sous la calotte glaciaire et est mobilisé par la circulation océanique sous les plateformes de glace. Et par endroits, l'océan regèle sous les plateformes de glace et donc piège du fer sous la glace, qui donc se retrouve ensuite sous les icebergs quand ils dérivent dans l'océan.
Ça donne une couleur particulière à l'iceberg ou pas? Parce que j'ai entendu parler d'iceberg vert émeraude.
Ouais, tout à fait. Il y a des gens qui sont un petit peu des collectionneurs de photos d'iceberg vert émeraude. Et il y a eu des études un petit peu pour essayer de comprendre exactement ce qui faisait que parfois ça donnait cette couleur vert émeraude et parfois plutôt des couleurs un petit peu brunes. Mm-hmm. Et visiblement, c'est tout à fait lié à cette présence de fer, combinée aussi avec avec l'effet de la biologie.
Vous en avez vu, Catherine Reed, vous, en Antarctique, des jadebergs, hein, je crois qu'on les appelle comme ça.
Oui, oui, ça arrive. Il y a toute une variété de couleurs dans les icebergs. Il faut savoir que la glace naturelle est bleue.
Et c'est très beau. Effectivement, on peut le voir sur un certain nombre de photos. On se retrouve dans un instant, la suite de ce dossier avec les questions pour vous. Bernard avec Taxi sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Ce qu'on a constaté d'abord, c'est qu'en certaines parties de l'Antarctique, la température a monté, donc effectivement la glace de mer s'est désintégrée. Et des icebergs sont partis à la dérive. Des icebergs, ça peut être une fois la Corse ou deux fois la Corse. On parle de milliers de kilomètres carrés. Mais ça ne veut pas dire que la glace du continent, elle va se mettre à partir en mer et à fondre.
La voix du glaciologue Claude Lorius, c'était en 1999 dans Thalassa. Les icebergs qui intéressent les scientifiques, mais aussi les artistes, comme on le voit avec nos invités, la glaciologue Catherine Ritz, l'océanographe Nicolas Jourdain, je vais y arriver, et l'artiste Barthélémy Antoine Louf. Il y a une question d'ailleurs pour vous,
oui,
Camille,
une question que je trouve très rigolote, mais très sérieuse. Christophe demande sur franceinter.fr si votre œuvre est assurée en cas de coupure d'électricité.
C'est une excellente question. Pour l'anecdote, la structure qui m'accompagne, c'est le Maïf Social Club, qui est l'assureur Maïf, et qui permet à chacun et chacune de recevoir l'œuvre chez soi. Et lorsqu'on a mis en route ce projet-là, évidemment, la question de l'assurance s'est posée. Et non, il n'est pas forcément assuré, puisque est-ce qu'on peut assurer des glaciers à l'échelle 1-1 dans la nature, c'est la question. Et en fait, finalement, est-ce qu'on peut assurer un glacier tout court?
Donc, votre iceberg sous cloche que vous pouvez aller livrer à vélo chez des particuliers, par exemple, ou dans des écoles.
Tout à fait.
Et l'idée, c'est de le conserver pendant quelques semaines, avant de vous le rendre, évidemment.
Et avant de me le rendre, et surtout de l'emmener chez quelqu'un d'autre.
C'est ça. Et donc, on peut voir même sa photo en story sur le compte Instagram de la Terre au Carré. Si vous souhaitez voir à quoi ça ressemble, vous verrez, ça prend pas beaucoup de place, mais il faudra bien vous en occuper si vous décidez de le recevoir.
Il n'a pas fondu d'un poil depuis le début de l'exposition itinérante, non ?
Alors non, il n'a pas fondu d'un poil, et surtout il grandit puisqu'il est sous perfusion.
Ouais.
Donc il est nourri en permanence, il y a une goutte d'eau qui vient le nourrir à intervalles réguliers, et ça me permet même de lui donner un âge, puisqu'en fait l'âge de ce glacier ou de ce iceberg se compte en gouttes d'eau, et actuellement il est âgé de 17 785 gouttes d'eau, donc ce qui permet aussi de pointer du doigt la fragilité de cette entité vivante. Si on imagine qu'un jour ce glacier puisse devenir, ou cet iceberg puisse devenir un géant de glace, il lui faudra une infinité de gouttes d'eau ou un temps éternel pour pouvoir être relâché finalement dans son milieu naturel.
Donc votre unité de mesure, c'est la goutte d'eau, c'est assez joli. Nicolas Jourdain, ces icebergs qui sont aussi des mémoires du passé et du climat en particulier, comment est-ce qu'on arrive à les dater d'ailleurs ?
Alors, je ne sais pas si on peut les dater, si on ne les a pas suivis depuis le début, ça, à moins d'aller faire des forages dedans, enfin je ne sais pas.
En tout cas, ça donne des indications sur les climats passés ou pas ? Si on va prélever de la glace, par exemple.
Je vais laisser Catherine répondre, parce que...
Catherine Ritz.
Alors, on a parlé du sédiment qui pouvait s'accumuler sous les icebergs, et en fait, quand ils fondent, ils vont relarguer ce sédiment dans la mer. Et en faisant des forages marins, là par contre, on voit des épisodes où il y a eu plus d'icebergs et moins d'icebergs, dans le nord et dans le sud. Et dans le nord, il faut savoir que pendant la période glaciaire, il y a eu des événements qu'on appelle les Heinrich Events, du monsieur qui les a découverts, où des armadas d'icebergs ont traversé tout l'Atlantique Nord, pour aller même jusqu'au large du Portugal.
C'est les grandes débâcles, en fait, c'est ça, d'icebergs ?
Des énormes débâcles d'icebergs qui venaient vraisemblablement de la baie d'Hudson et qui ont affecté le climat parce que toute cette masse de glace a relargué de l'eau douce.
Oui.
Et du coup, ça a modifié vraisemblablement la circulation océanique dans le passé. Et autour de l'Antarctique, on voit aussi il y a un endroit qui s'appelle l'allée des icebergs le long de la péninsule antarctique, et en forant à cet endroit-là, ils voient effectivement des périodes où il y a eu des grandes quantités de sédiments qu'on attribue à une grande quantité d'icebergs.
Il fore, jusqu'à quelle profondeur ? Parce que j'imagine que techniquement, ça doit être limité. Ça veut dire qu'il faut que les sédiments soient aux bons endroits accessibles, quoi.
Alors, les sédiments marins, en fait, la résolution est beaucoup moins fine que dans la glace, et on n'a pas besoin d'aller très profond pour retourner très loin dans le passé.
D'accord.
Et alors, Nicolas Jourdain, justement, on parlait de cette fonte et cette libération d'eau douce. Qu'est-ce que ça a comme effet sur les écosystèmes marins, justement, cet apport tout d'un coup d'eau douce dans un milieu salé ?
Alors, ça a d'abord un effet sur l'océanographie. Puisque, alors par exemple, en Antarctique, on a généralement de l'eau en profondeur, de l'eau qui est relativement chaude et salée, au-dessus de laquelle on a de l'eau un petit peu plus douce, donc plus légère et plus froide. Et en fait, le mélange entre ces deux masses d'eau est vraiment crucial pour le climat, que ce soit pour la circulation thermohaline mondiale qui régule le climat, ou que ce soit pour la fonte de la calotte antarctique par l'océan. Et ça a aussi des impacts sur la biogéochimie, sur la vie. Et donc, en venant rajouter de l'eau douce, on vient perturber la façon dont ces deux masses d'eau se mélangent. Et donc, ça peut avoir des impacts sur l'ensemble du climat mondial.
Et donc, qu'est-ce qu'on en sait exactement ? Est-ce que vous avez fait des suivis sur ces questions-là ? En fonction de l'augmentation de la température de la mer, par exemple, les effets sont très différents ?
Oui, alors ce qu'on fait typiquement à Grenoble, c'est qu'on fait des simulations numériques. Donc, on essaye de modéliser avec des ordinateurs, ce qui pourrait se passer si le flux d'iceberg dans l'océan austral variait. Et donc, en faisant varier ces paramètres-là dans des scénarios possibles pour le siècle à venir, eh bien, on voit effectivement qu'en en relarguant plus d'eau douce à la surface de l'océan austral, on change complètement le climat. Et on a tendance à augmenter la fonte sous les parties flottantes de la calotte.
Et là, on a aussi comme conséquence une élévation du niveau de la mer.
Oui, donc c'est alors les icebergs ne flottent et ne contribuent pas directement au niveau de la mer. Si un iceberg ou la partie flottante des glaciers se met à fondre, ça ne change quasiment pas le niveau de la mer global. Par contre, que ce soit pour les icebergs ou les plateformes de glace, la fonte va avoir des conséquences sur la partie de la calotte qui est posée sur le socle rocheux. Et plus de fonte va avoir tendance, que ce soit les icebergs ou les plateformes de glace, à accélérer l'écoulement de la calotte en amont et donc à contribuer à l'élévation du niveau des mers.
Une question de Nicolas qui voudrait savoir, Nicolas sur franceinter.fr, qui voudrait savoir quelles sont les conséquences de la perte de toutes les informations contenues dans les calottes polaires et en combien de temps elles pourraient se reconstituer si le réchauffement climatique s'arrêtait, sait-on jamais, aujourd'hui. Catherine Ritz, vous avez une idée?
Alors l'information, je pense qu'on a encore une marge avant que l'information climatologique qu'on extrait des carottes de glace soit perdu, parce qu'en général, les forages ont lieu plutôt au centre de l'Antarctique ou du Groenland, et là, il y en a quand même pour pas mal de temps avant que ça arrive à fondre, même si ça arrive à fondre. Pour construire une calotte de glace, il faut au moins 10 000, 20 000 ans.
Ah oui, ah oui. Donc même si ça s'arrêtait là, tout de suite, demain, ce qui est perdu pour l'instant, quoi.
Ah oui, oui, de toute façon, nos projections auraient plutôt tendance à dire qu'on va continuer à perdre.
Barthélémy Antoine Louf, vous le disiez tout à l'heure, c'est tout le travail de la cryosphère qui vous intéresse. Donc là, on parle des icebergs en particulier, mais pas seulement, parce que la cryosphère, c'est bien d'autres choses encore.
Ben oui, c'est bien d'autres choses encore. Et puis, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sans les glaces, on est quand même mal barré. Enfin, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et je pense que, en tant qu'artiste, d'un point de vue sensible, ma position, c'est aussi d'alerter sur les enjeux liés à cette disparition et à cette perte de cryosphère, mais aussi de parler et au travers de mes installations d'autres enjeux, comme est-ce qu'on peut réparer le climat, est-ce qu'on peut utiliser les technologies pour réparer le climat, quels sont les enjeux géostratégiques ou géoclimatiques liés, par exemple, à l'Antarctique. On sait qu'il y a un traité qui va être tout renégocié, tout ou en partie, en 2048. Est-ce que l'Antarctique va devenir une terre que l'on va pouvoir exploiter pour ses ressources? Ou alors, est-ce qu'on peut imaginer éventuellement, et ça c'est par exemple un de mes travaux qui s'appelle « Ce qui disparaît se transforme immédiatement en éternité », je reste dans la thématique de l'iceberg. C'est une installation qui cherche à améliorer la forme de l'iceberg, de manière à trouver l'iceberg qui va fondre le plus lentement possible. Évidemment, c'est une
idée technologique.
C'est une idée
là,
technologique.
En fait, hein. Vous allez interroger justement les solutions.
Tout à fait. Et ça parle du technosolutionnisme, qui est quand même un courant global porté aujourd'hui haut la main et qui est.
Et c'est quoi
dangereux.
La réponse alors à cette question alors finalement? Est-ce qu'on a moyen de les maîtriser, ces icebergs, ou
et
pas?
Eh bien, la machine a, enfin, puisque l'installation se présente comme une machine, la machine a comme mission de trouver, donc en fait d'optimiser la forme de l'iceberg. Ouais. Donc, j'utilise volontairement ce terme-là. L'idée c'était que à la base la machine s'arrête par elle-même en disant je n'ai pas la solution. Ouais. Sauf qu'en fait elle ne trouve pas la solution et la machine continue à détruire de la glace en imaginant qu'elle va pouvoir recréer le prototype de l'iceberg parfait ou ultime. Ouais. Donc c'est un peu une allégorie aussi de notre société quelque part.
Catherine Ritz, c'est quoi la meilleure façon de lutter contre la fonte justement des glaces aujourd'hui?
Alors la seule solution, c'est au niveau global en fait. C'est tous les efforts qu'on fait pour limiter le changement climatique ont une action sur les pôles, mais localement, il n'y a pas vraiment de possibilité.
Donc il faut maintenir la température finalement, hein, et essayer d'éviter l'emballement
du réchauffement
et du thermomètre.
Voilà, exactement.
Camille, il y a d'autres messages sur franceinter.fr.
Gérard, en fait, on y a un petit peu répondu tout à l'heure avec Nicolas Jourdain. Et il voudrait savoir, ou avec vous, Catherine Ritz d'ailleurs, je ne sais plus, qu'en est-il des icebergs sur leur fonte par rapport à l'élévation du niveau des mers? Donc, est-ce que vous pouvez répéter que la fonte des icebergs n'a pas d'incidence? C'est bien ça?
La fonte des icebergs n'a pas d'incidence directe, mais il y a une incidence quand c'est plutôt les plateformes qui sont avant la structure, avant les icebergs, qui en disparaissant, ont une incidence sur l'écoulement de la glace.
Allez, on va écouter Le Paradis Blanc, c'est de circonstances avec Michel Berger. Et puis on se retrouvera juste après pour les dernières questions sur ce dossier Iceberg sur France Inter.
Il y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner. Il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer, recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats de sang, retrouver les baleines. Son argent, comme avant. Y a tant de vagues et tant d'idées qu'on n'arrive plus à décider. Le jour où j'aurais tout donné, que mes claviers seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer et recommencer là où je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les manchots s'amusent dès le soleil levant et jouent en nous montrant ce que c'est d'être vivant.
Le Paradis Blanc, celui de Michel Berger sur France Inter, pour parler Iceberg cet après-midi avec nos invités. Nicolas Jourdain, j'ai une question à vous poser sur celui qu'on surnomme le glacier de l'apocalypse. Donc c'est pas un iceberg, c'est un glacier. Pourquoi est-il aussi surveillé? Est-ce qu'il y a vraiment des enjeux à l'échelle de la planète autour de ce glacier?
Oui, donc il y a deux glaciers, le glacier de Thwaites, qu'on surnomme le glacier de l'apocalypse, et puis son voisin Pine Island, le glacier de l'île des Pins. Et ces deux glaciers sont relativement petits par rapport à d'autres en Antarctique, mais ils ont un bassin versant qui est vraiment énorme. Et à eux seuls, ils ont expliqué sur les années récentes de l'ordre de 10% d'élévation du niveau des mers, et ils pourraient vraiment fortement contribué par le futur.
Voilà, donc là, c'est pour bien distinguer ce qu'on disait tout à l'heure entre le niveau de la mer lié aux icebergs et là, aux glaciers, parce que effectivement, son effondrement complet, en tout cas, pourrait faire monter le niveau de la mer de plus d'un demi-mètre, hein, ce qui est absolument considérable. Il n'y a pas de date pour l'instant de prévu.
Non, c'est... je pense qu'on est à peu près tous d'accord entre glaciologues pour dire que oui, le niveau des mers va monter de 2 mètres, mais si c'est dans 3 siècles ou dans 2000 ans, on a
on
du
mal. On n'en sait rien.
On ne sait pas. Barthélémy-Antoine Louf, il y a une question que je me pose depuis le début de l'émission. C'est l'eau de votre iceberg, elle vient d'où? C'est pas de la vitelle?
Ah non, c'est pas de la vitelle. L'histoire de ce glacier, vient d'un glacier qui s'appelle Okyokul, qui est un glacier qui a disparu en 2014.
Ça sent l'Islande, ça, non ?
Ça sent l'Islande. Hein ? Du coup, le glacier, pour pouvoir faire un glacier, pour pouvoir faire un nouveau glacier ou un petit iceberg, il faut de l'eau de glacier et du froid polaire. Et donc, c'est l'eau fraîchement fondue du glacier islandais Okyokul qui alimente aujourd'hui le glacier.
Donc, c'est un petit bout de l'Islande qu'on peut accueillir chez soi.
C'est un petit bout d'Islande qu'on peut accueillir chez soi.
Il faut le demander simplement sur votre compte Instagram.
Tout à fait.
Bon, ben on met tout ça en lien sur la Terre au carré. Catherine Ritz, une dernière question. On dit que certains icebergs pourraient être une réponse aux besoins en eau douce de la planète. Certains avancent des idées assez saugrenues de tractage des icebergs. Qu'en pensez-vous en tant que scientifique ?
À mon avis, la dépense en énergie est faramineuse parce que là où on a besoin de l'eau douce, c'est souvent dans des endroits tropicaux. Donc, soit on essaye de la prendre des icebergs du Groenland, mais ils sont pas si gros que ça, et les icebergs antarctiques, il faut passer l'équateur, et là, c'est carrément... ils auront fondu avant, de toute façon.
Donc c'est un petit délire techno-solutionniste, on est à peu près tous d'accord pour dire ça comme ça ?
Oui, tout à fait.
Ouais. Donc aucun intérêt de s'y intéresser. Camille, pour terminer ?
Il y a plus tellement de questions. Juste la glace est bleue. Avec ce que vous avez dit tout à l'heure, Catherine Ritz, vous disiez la glace est bleue. C'est pour la même raison que le ciel ou la mer est bleue. C'est...
Non.
Alors en 10 secondes.
Non, le ciel est bleu parce qu'il y a de la diffusion et la glace est bleue parce qu'elle absorbe les autres couleurs.
Merci beaucoup pour la rapidité de votre réponse. Catherine Ritz et Nicolas Jourdain en duplex donc de France Bleu Isère à Grenoble. Merci aux équipes là-bas. Et Barthélémy, Antoine Louvre, donc tous les contacts pour ceux qui souhaitent accueillir chez eux votre iceberg islandais. Et bien en prendre soin surtout.
Surtout.
Merci beaucoup d'être venu dans l'émission.